Bienvenue dans la troisième saison de Dessine-moi un corps. Et oui, déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, c'est un épisode, une fois par mois, sur une thématique liée au corps et à l'histoire des arts. Bonne écoute! Bisous! Hello tout le monde! Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux auditrices, Andrea et Léna, et je suis vraiment très très contente de les avoir à mes côtés pour parler d'histoire de l'art et de rapport au corps. Donc merci à vous deux de vous être déplacés. Et première question comme ça, assez brute de décoffrage, qu'est-ce que vous inspire le nom « Dessine-moi un corps » ? Parce que c'est vrai que j'ai choisi ça, mais je me suis jamais demandé si ça vous évoquait quelque chose en particulier. Donc je vous laisse répondre et puis peut-être aussi vous présenter si vous voulez.
Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Léna et ce que m'évoque le podcast ou le nom du podcast Dessine-moi un corps, je trouve qu'il laisse beaucoup d'expression et beaucoup de liberté dans la représentation justement du corps et qu'est-ce que ça signifie pour un peu tout le monde. Justement, c'est un peu une question aussi de... Ok, ben bonjour. Qu'est-ce que pour toi le corps et dessine-le-moi. Je trouve que ça, ouais, ça laisse beaucoup de cette liberté-là.
Bonjour à tous. Je m'appelle Andrea. Qu'est-ce que ça m'évoque, dessine-moi un corps. En fait, moi, je pense vraiment à l'origine vraiment de l'histoire de l'art, où j'y connais pas grand-chose, même si je suis une auditrice assidue. Mais quand je pense à l'origine de l'histoire de l'art et de la peinture, avant de penser à l'origine du monde, je pense tout de suite aux grottes de Lascaux et aux dessins de Cro-Magnon, où en fait, à l'époque, ils dessinaient des animaux, ils dessinaient des êtres humains, et après, je pense aux hiéroglyphes, qu'est-ce qui était dessiné, c'était des gens dans plein de positions, qui marchaient, qui dansaient, je sais pas, et ça me fait penser à ça, donc je pense que c'est un titre qui est très bien choisi, parce que ça remonte très 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 loin de nous, et aujourd'hui le corps, c'est tout. Pour dessiner, il faut un corps. Voilà, il faut être vivant et vivre, c'est avoir un corps.
Mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, Andrea. C'est vrai que le titre du podcast, en fait, c'était vraiment, ça m'est venu en une nuit. En fait, je me suis dit, il faut quelque chose un petit peu de vindicatif, c'est-à-dire avec un verbe dès le départ, et puis qu'il y ait le mot « corps » dedans pour qu'on sache directement dans quel angle je vais. Et du coup, je me suis dit que c'était une manière d'aborder ce thème qui est quand même assez large. Donc c'est rigolo de vous entendre discuter autour de ce sujet. Et je me demandais du coup, comment est-ce que vous aviez découvert le podcast ? Parce que maintenant, ça fait 3 ans qu'il m'accompagne tous les mois. Et du coup, voilà, est-ce que... Donc, dans quelles circonstances vous l'avez découvert ? Et puis voilà, je sais qu'il y a beaucoup de podcasts en histoire de l'art aussi qui existent. Pas forcément dans ma niche, mais dans plein d'autres domaines. Donc voilà, si jamais je suis tout ouïe, parce que tout ça m'intéresse fortement. Donc voilà.
Alors, moi, j'ai découvert le podcast il y a un petit peu plus d'un an. Et en fait, je me questionnais beaucoup sur les corps et la représentation des corps nus. Et en réfléchissant un peu de mon côté, j'ai commencé à me dire qu'en n'ayant aucune formation dans la photo, j'étais en train de monter un petit projet de photographie de corps nus à afficher dans les rues pour rendre la visibilité et rendre le nu beaucoup moins tabou que ce qui pourrait être et ce qui peut être aujourd'hui. Et du coup, en me renseignant un peu sur Internet, j'ai découvert ton podcast. Et il y avait effectivement, comme tu le disais, Maureen, il y a plusieurs podcasts qui abordent ce sujet-là. Mais le format, comme ça, avec des très précis, je trouvais ça intéressant de comprendre vraiment voilà, toutes les réflexions qu'on peut avoir sur le corps, sur quelle partie, enfin, sur les différentes parties du corps, ce que ça signifie aussi, justement, avec toute cette histoire-là, de l'histoire de l'art, quelle partie, à quelle connotation, pour parler de... En tout cas, moi, c'était ce sujet-là, le nu, et du coup, quel rapport, quelle est l'histoire de, je sais pas, une main, qu'est-ce que ça signifie, une main, dans un corps, et un petit peu ne pas forcément faire de grosses boulettes en affichant des choses qui sont très chargées. Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert ton podcast.
En ce qui me concerne, j'ai découvert ton podcast parce que tu es mon amie de longue date. Donc j'ai commencé à écouter pour te soutenir. Et aussi parce que moi, mon truc, c'est plus le cinéma. Je m'y connais plus en cinéma. Je peux te faire des dissertations sur des plans de films, les corps dans les films et le male gaze, etc. etc. Mais c'est vrai qu'en histoire de l'art, je suis quand même un peu une quiche. Et en fait, depuis que j'ai emménagé à Paris, je me suis dit que c'était quand même une bonne opportunité de m'aventurer un peu dans les musées, dans les expos. Et en fait, tout en faisant un parallèle entre mes propres aventures dans des musées, etc., et ce que tu racontais dans les podcasts, en fait, souvent, ça rebondissait parce que... par exemple, j'étais allée voir l'expo de les photographies de l'intime et tu avais fait un hors-série sur cet épisode et en fait, tu l'avais sorti la semaine où j'y suis allée et en fait, ça m'a apporté quand même beaucoup, pas d'explication parce que j'avais tout lu sur place, mais en fait, ça m'a quand même apporté peut-être replacer les artistes dans leur environnement, vraiment plus de réflexion sur les techniques, sur les époques, et ça, ça m'aide en fait, ça fortifie. Je pense que même toutes les personnes, même des gens qui sont très très forts en histoire de l'art, écouter ce podcast c'est très important parce que moi personnellement je connais pas d'autres podcasts sur l'histoire de l'art. Et je trouve que tu crées quand même une merveilleuse archive sur énormément de thèmes artistiques, parce que tu t'aventures aussi bien dans la sculpture, dans la peinture, dans la photo. Et en fait, tout est très condensé dans des épisodes vraiment courts, hyper abordables pour tout le monde. Et ça vulgarise très facilement avec beaucoup d'humour. Donc je suis très fière de toi.
Je suis complètement d'accord. Moi, j'y connais rien non plus en histoire de l'art. Et justement, en fait, ce format-là, ça permet aussi d'avoir c'est des petites portes ouvertes pour ensuite, par soi-même, continuer à creuser un peu les sujets que tu abordes, les artistes que tu nous fais rencontrer. Et je trouve ça vraiment très chouette comme proposition.
Vous me dites des très belles choses, là, quand même, hein. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on ne me voit pas rougir, ça c'est chouette. Sinon, je me demandais quand même, parce que c'est un podcast autour du corps, et quand on parle du corps, on évoque forcément le nu. Moi, je me suis toujours beaucoup questionnée sur mon rapport au nu, par exemple. Comment moi je me percevais, enfin, j'ai fait très longtemps ce rêve où... Ouais, je suis toute nue dans la rue et vous êtes en train de rigoler, peut-être que ça vous est arrivé aussi, où je suis toute nue dans la rue et on me voit et du coup je me cache, telle Ève qui se cache avec sa feuille de vigne. Du coup, je me demandais, si vous aviez un rapport au corps. Enfin, quel était votre rapport au corps, en fait ? Parce que c'est vrai que je le questionne beaucoup en histoire des arts, mais peut-être pas assez pour moi. Et du coup, je me demandais si vous accepteriez de le partager votre vision du corps à vous.
Je pense que mon rapport à mon corps nu évolue énormément ces dernières années. Je pense que j'étais quand même très très pudique très longtemps. Et depuis peu, en fait, je pense que c'est beaucoup de chamboulements, la puberté, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion de me montrer toute nue très tôt. Et c'est des copines qui ont eu ce plaisir, je pense, peut-être des pyjamas party, des trucs comme ça, où on changeait les unes devant les autres. Et puis forcément, je pense que j'avais voilà, peut-être 20 ans. Et à partir de ce moment-là, il y a un truc d'égalité qui se crée tout de suite. Parce que tu vois qu'en fait, on a toutes les mêmes corps. Et c'est pas grave, en fait, de se retrouver toute nue. Et du coup, ça me fait penser à ça parce que ton rêve, je pense qu'il y a peut-être 90% de la population mondiale qui a fait le même rêve parce que ça peut être un cauchemar d'humiliation, de vulnérabilité, de plein de sentiments très, très négatifs. Mais en fait, l'expression « se mettre à nu », ça peut apporter des très bonnes choses aussi. C'est à double tranchant. Après, je pense que aimer son corps nu, ça vient aussi, je pense, avec peut-être le début de la vie sexuelle. Je pense que ça vient aussi un peu avec ça. En ce qui me concerne, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ce contexte-là. Et puis, le corps nu des autres, en fait, on le voit beaucoup dans les films et dans la peinture et dans les sculptures qu'on voit enfant quand on va au musée, en classe verte. Et c'est, en fait, je pense qu'on est plus habitué à voir le corps des autres qu'à se montrer nous-mêmes, tout nu. Et c'est plus ou moins facile en fonction des gens. Et après viennent forcément les complexes, et puis il y a toujours un poil qui est là où il ne faut pas être, et y a toujours là une vergeture ou une trace ou une cicatrice qui ne devrait pas être là, et on a un peu honte au moment T. Mais en fait, notre corps nous porte, et c'est, je pense que ça met énormément de temps de faire la paix avec son corps, et d'accepter ce poil et cette cicatrice qui ne devrait pas être là. Ça peut mettre 10 ans comme ça peut mettre 5 minutes, mais en fait, il faut faire la paix avec le fait que tout le monde passe par là. Tout le monde a un corps imparfait, personne n'a un corps parfait. Et c'est important dans l'appréhension des autres aussi, je pense, de se dire que qu'on est juste une enveloppe et qu'on est tous beaux.
On est tous beaux. J'adore ton enthousiasme à toute épreuve. T'en penses quoi, toi, Léna ? Est-ce qu'on est tous beaux, vraiment ?
Je te rejoins beaucoup sur le fait, sur ce que tu disais de ton rapport au corps et à ton corps nu qui a changé par rapport à depuis quelques années. Moi, je le ressens beaucoup aussi. J'ai eu la sensation pendant l'adolescence et pendant ce moment-là de puberté où en fait j'avais un rapport à mon corps nu très esthétique et j'attendais à ce qu'il corresponde à une beauté qu'on attendait, et ce qui n'était pas forcément très agréable comme moment, parce que comme tu dis, un corps est jamais parfait et jamais non imparfait. Et ça fait quelques temps maintenant où je le considère un peu plus de façon pratique, entre guillemets, où je vois tout ce qui me fait vivre, tout ce qui me fait ressentir, où je... Enfin, dans... je fais pas mal de randonnées, par exemple, et je trouve ça assez incroyable que mon corps il puisse me permettre de faire tout ça. Et je... Enfin, j'ai ce rapport-là un peu de toucher quelqu'un, cette sensation-là, de boire quelque chose qui est bon, un peu plus physiologique, entre guillemets, et ce qui me permet de l'apprécier vraiment, vraiment très fort. Et du coup, c'est... Enfin, je trouve ça marrant comme changement de point de vue que j'ai vécu. Et par rapport à la nudité... Je crois que j'ai jamais vraiment été pudique avec les autres. Et au collège, j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. J'ai été dans une classe danse. Et je crois que ça a vraiment impacté ce point de vue-là. Parce que le corps, c'était pas quelque chose de sexuel. Loin de là, c'était vraiment quelque chose d'expressif. Et on était au collège et on allait déjà voir des spectacles et des performances de nus. Donc ça, je pense que ça a beaucoup joué, surtout à ce moment-là où on se construit beaucoup de choses, on se découvre énormément, et en fait de voir des corps complètement en mouvement, dans des positions complètement qui nous paraissent complètement incongrues, c'était assez fort comme moment. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là de déconstruire ce rapport à la nudité qui se doit, entre guillemets, d'être belle et sensuelle, alors que, en fait, pas forcément un corps qui soit habillé ou non, c'est un corps comme il est. Et du coup, c'était assez... ça m'a beaucoup impacté, je pense.
Moi, je suis d'accord, je trouve que le... En fait, on se rend pas compte à quel point, déjà, un corps, on l'a pour toute la vie. Et du coup, il faut en prendre soin le plus possible parce qu'on n'aura pas de deuxième chance en soi. C'est très fataliste ce que je dis, mais c'est vrai. Et moi, pour parler un petit peu de mon expérience personnelle, j'ai eu un rapport pas si compliqué à mon corps. Enfin, pendant mon adolescence, franchement, ça a été. Je m'estime assez chanceuse. Et c'est que très récemment que je me découvre des insécurités au niveau de mon corps. Je le vois au niveau de ma manière de m'habiller, de ma manière de me comporter avec mon corps. Enfin, je vois qu'il y a eu un changement. Et je me dis, je devrais peut-être recommencer ce que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, j'avais participé à un shooting photo de modèle nu pour une auditrice qui s'appelle Louise. Coucou si tu passes par là, Louise. on avait fait un épisode ensemble sur la photographie contemporaine. Je l'avais interviewée et ensuite, elle cherchait des modèles de nus pour son projet de fin d'année. Et du coup, je lui avais dit, moi, je mourrais d'envie de faire ça depuis un moment. Du coup, elle m'a dit, viens. Et j'y suis allée. Et c'était un moment qui était assez hors du temps parce que... Bon, tout en bienveillance, évidemment, hein. C'était un très safe comme environnement. Mais du coup, j'étais sans vêtements et dans un espace assez froid, il faut le dire quand même. Et elle était avec son appareil photo. C'était un argentique et puis il y avait un pola. Et donc, elle m'a pris en photo sous tous les angles, toujours en me demandant si ça allait, etc. Et en fait, je me rendais compte que je lui demandais au fur et à mesure de voir les photos. Parce qu'en fait, j'étais dans ce truc de... Pas de vouloir contrôler mon image, mais il y avait un peu de ça. Et en fait, plus la séance avançait, et plus je lui disais, mais en fait, non, ça va, j'ai pas besoin en fait, de voir les photos. Parce que j'avais accepté ce qui était en train de se passer. Et j'étais juste bien et j'étais à l'aise. Et à la fin, quand j'ai regardé les photos, je me suis trouvée jolie, quoi. Et je me demandais s'il y avait une œuvre en particulier Alors, je sais qu'on n'est pas forcément ici toutes adeptes d'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art, c'est assez large. Il y a aussi cinéma, il y a aussi littérature, musique, théâtre. Voilà, il n'y a pas que la peinture, la sculpture. On dirait que c'est le duo au sommet de la pyramide, mais en fait, il y a énormément d'art. Donc, voilà. Donc, je me demandais s'il y avait une œuvre d'art qui vous avait particulièrement touché, ému ou procuré un sentiment qui soit positif ou négatif. Et que vous avez vraiment senti qu'en fait, ça vous impactait dans votre corps et émotionnellement. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, donc je rebondirai sur ça juste après. Mais du coup, je suis assez curieuse de vos réponses.
Alors, moi, il y a une artiste que j'ai découvert grâce au compte d'Eva Kirillov sur Instagram. C'est Anne Bergman. Donc, c'est une américaine qui faisait des autoportraits dans les années 60, enfin 50-60. Et en fait, moi, ça m'a vraiment assez bouleversée ce qu'elle faisait. Parce que tous ses autoportraits étaient faits en extérieur avec ses amis proches ou ses sœurs. Et enfin, vous pourrez peut-être aller voir sur le compte du coup de Eva Kirillov. Mais on voit, elle se positionne en... où elle se mélange dans le décor, où elle se mélange dans les arbres, sur les rochers. Et j'ai un rapport assez... enfin, c'est la nature et l'environnement, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et j'ai... Je pense qu'on peut appeler ça une croyance, où je pense qu'on... Enfin, je crois beaucoup en quelque chose d'assez... universel, et où on fait partie d'un tout et où on est aussi très proche de l'environnement, de la nature. Et ça m'a vraiment bouleversée de voir ces corps nus être mélangés comme ça dans la nature, et où on voit une proximité entre les plis de la peau et les plis des écorces, qui visuellement, il y a presque aucune différence, ça se mélange complètement. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, et que j'ai retrouvé il y a peu de temps avec une performance. Donc ça, c'était deux femmes qui performaient sur des cordes aériennes qui avaient été installées dans la forêt. Il y a un événement qui se passe tous les ans, c'est les nuits des forêts. Et où en fait elle performait comme ça en étant à la fois à côté des arbres et en faisant partie, où ça se mélangeait, il y avait ces corps qui se mélangeaient entre les corps d'arbres et les corps d'humaines. Et je trouvais ça vraiment très beau, et en tout cas cet artiste m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. C'est Anne Bergman.
Alors moi, c'est vrai que je ne m'y connais pas trop en peinture. En fait, j'ai été proche de la peinture très très tôt dans ma vie, parce que j'ai une de mes tatas qui est peintre. Elle s'appelle Sylvie Dalla. Et hello Sylvie, coucou tata si tu m'écoutes. Et en fait, j'étais toute petite et je l'ai toujours vue dans son atelier à peindre tout le temps, et elle peint encore aujourd'hui. Et en fait, elle a un univers, c'est que des peintures à l'huile, et elle a un univers très... le jeu du tarot, les livres, les chats qui pourraient parler, qui sont un peu humanisés. C'est très marrant. Et en fait, ça, j'ai vu ça quand j'étais toute petite, quoi, où je l'ai toujours vu peindre. Mais en fait, je ne me suis jamais vraiment intéressée à la peinture. J'aimais la voir peindre, elle, mais je n'ai jamais eu ce truc, cette espèce d'intérêt pour la peinture. Parce que moi, quand j'étais au lycée, qu'on étudiait Guernica et tout, ça ne me plaisait pas forcément, voilà. Pour énormément de raisons, voilà. Et encore plus avec du recul aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de m'intéresser à Guernica. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a, quand j'y pense, il y a une peintre qui vraiment me bouleverse. C'est Lee Price, et t'en as parlé dans ton épisode sur la nourriture.
Ah oui, tout à fait.
Et en fait, elle, ça fait des années que je l'ai découverte par hasard sur Instagram, où je pensais que c'était une photo, parce qu'en fait, c'est de l'hyper-réalisme qu'elle peint. Elle peint beaucoup de bouffe, voilà, dans elle-même en contre-plongée, même en plongée d'ailleurs, dans son bain, en train de manger plein de céréales et de... Enfin, c'est la grande bouffe, quoi. Et c'est très réaliste, et ça, ça me bouleverse. Je sais pas pourquoi ça me plaît autant, mais c'est vrai que elle, quand j'ai vu que t'en parlais très rapidement dans ton épisode, je me suis dit, mais c'est vrai que elle, je l'aime trop, ça fait hyper longtemps que je la connais. En revanche, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la photo. Parce que voilà, les arts visuels, c'est plus mon dada, je me suis beaucoup plus intéressée. Une photographe qui vraiment me rend dingue, c'est Viviane Maier. Je suis vraiment pas originale en disant ça, mais pareil, je l'ai découverte par hasard dans une expo à Amsterdam avec des copines. C'était au musée de la photographie à Amsterdam. On était tombés dessus par hasard et je la connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai découvert ce personnage de Mary Poppins complètement diabolique. D'ailleurs, si vous avez pas encore vu le documentaire sur elle qui a été fait par un type qui a retrouvé en achetant un lot de pellicules, il a trouvé le trésor de sa vie qu'elle cachait. Bien après sa mort, regardez ce documentaire, je n'ai plus le nom, mais ça doit être Viviane Maier.
C'est sur Arte, je crois.
Ouais.
C'est sur Arte.
C'est un documentaire Arte. C'est genre Viviane Maier, A Dark Story, un truc comme ça. Parce qu'elle avait quand même des soucis, ouais, compliqués. Une vie compliquée. Mais elle, j'adore. Tout ce qu'elle fait, c'est que de la photographie de rue. Et elle, quand on parle du corps... Elle, vraiment, elle saisit les corps avec voilà, son petit Rolleiflex, toujours le même appareil. Et elle saisit les corps des inconnus dans la rue. Elle va prendre en photo des pieds nus dans la boue. Elle va prendre en photo une femme qui croise les jambes, mais on ne voit pas forcément son visage. S'il y a un enfant qui pleure, elle va le prendre en photo. Enfin, vraiment, elle arrive à saisir le drama de la vie ou même les bombes, enfin, les scènes complètement quotidiennes, quoi. Donc ça me plaît beaucoup. Et ce qui me plaît aussi, c'est que c'était son secret et elle n'en a jamais parlé à personne. Et elle est morte sans que personne sache qu'elle avait ce talent. Et elle a été découverte par ce mec qui a acheté un lot dans un hangar et qui s'est retrouvé avec le secret de sa vie dans les mains, quoi. Donc j'adore Viviane Maier et j'adore aussi, que j'ai découvert très récemment, Nan Goldin. Que j'ai découverte, encore une fois, parce que je suis ignorante, je l'ai découverte dans un documentaire qui s'appelle « Toute la beauté et le sang versé » de Laura Poitras, qui est sorti l'année dernière au cinéma. Et pareil, elle a eu une vie par monts et par veaux. Elle a vécu 1500 vies en une. Elle prenait en photo... des femmes battues ou même elle-même qui était battue par son mec. Elle prenait en photo des gens qui étaient en train de se piquer dans la rue ou des amis à elle qui avaient le sida. Et en fait, elle n'avait pas peur de se plonger la tête dedans, quoi. Et moi, ce documentaire m'a vraiment tellement, tellement, tellement touchée et choquée, mais dans le sens, je n'oublierai jamais ça. Et j'invite tout le monde à découvrir le travail de Nan Goldin. Et si je dois terminer dans le cinéma, je dirais que mon corps préféré au cinéma, c'est le corps de Delphine Seyrig, qui est mon esprit à moi. C'est une actrice des années 60 qui était très 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 connue pour son militantisme féminisme et qui a co-créé le MLF à l'époque. Et en fait, elle a arrêté de tourner parce que beaucoup de réalisateurs ne voulaient pas travailler avec une féministe. Et en fait, il faut regarder ses films. Et je pense que je ne me suis jamais remise de la découvrir dans un film qui s'appelle « Baiser volé », où j'ai découvert sa silhouette et sa voix qui est incroyable. Et je vous invite à découvrir tous les films qu'elle a fait et tout son combat.
Mais pour rebondir sur Nan Golding, enfin, moi je vais être assez, enfin, je vais être assez classique dans mon rapport au corps, mais c'est parce que du coup tout ce qui est corps douloureux, corps morcelé, corps torturé, violenté, corps qui souffre, en fait, moi ça m'a, enfin, je fais un parallèle direct avec Frida Kahlo, qui est mon premier love, j'allais dire. On part dans une chanson de Tony Parker. C'était pas le but. Mais Frida Kahlo, c'est vraiment, moi, mon référentiel en matière de corps. De par son histoire. Enfin, j'imagine que vous êtes assez familière avec son histoire et son terrible accident qui, en fait, a été... J'ose pas dire salutaire parce que je sais pas si on peut dire ça pour quelque chose qui t'a marqué à vie, mais qui a nourri du moins tout son parcours artistique. Donc elle en a vraiment fait sa croix qu'elle a portée toute sa vie. Et donc c'est visible dans toutes ses œuvres. À chaque fois que je regarde ces tableaux, en fait ça suinte la douleur, en fait. Enfin, on sent vraiment à quel point elle a été marquée dans sa chair. Et elle arrive à le transmettre d'une manière assez, assez remarquable, je trouve, dans ses compositions. Enfin, avec tous ses autoportraits où on voit sa colonne vertébrale apparente, ou quand elle peint son désir de maternité qui n'aboutira jamais parce que, avec ce fœtus... Enfin, c'est un tableau, j'en ai déjà parlé dans mes épisodes et je suis pas du tout la seule d'ailleurs. Enfin, ça a été, on a beaucoup parlé de son travail, mais d'où elle se représente, on voit même pas sa tête. En fait, la mère est invisibilisée dans son travail, où on la voit donc les jambes écartées et on voit un enfant mort-né qui sort, en fait, et c'est avec le sang, etc. Donc c'est assez violent. Donc ça, c'est mon premier rapport au corps qui m'a vraiment marqué dans mes tout jeunes années d'histoire de l'art, on va dire. Et ça a continué avec le film avec Salma Hayek qui a joué sa vie. Et je trouve que c'était un super biopic sur Frida Kahlo. Et on ressent à travers ce film, encore une fois, ils ont réussi à retransmettre, je trouve, toute cette complexité de corps handicapé, en fait, où elle avait un corset, elle avait genre des bouts de bois qui lui maintenaient le corps droit, où elle passait la moitié de ses journées dans son lit à peindre. Et je trouve que c'est... On peut dire que, en tout cas, pour moi, ça a été mon premier choc de... Mes premières émotions par rapport au corps, on va dire. C'est marrant, c'est d'abord un rapport à la douleur et à la souffrance plutôt qu'un rapport au bien-être. Je suis en train de me faire ma propre psychanalyse avec vous, mais c'est totalement vrai. Et là, je parle à chaud, mais c'est totalement vrai. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'art, d'une quelconque manière, peut amener à réparer le corps, parfois ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé ? Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête ? Voilà, comme un petit pansement tout doux qui pourrait faire du bien.
Du coup, moi, je vais reparler un petit peu de la danse et de l'expérience que j'ai eue avec ça. Je sais que, de manière générale, j'ai beaucoup de mal à exprimer ma colère ou des émotions très fortes comme celle-ci. Et je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup et de danser, et que ce soit de façon complètement seule chez moi, dans mon salon. Ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidée de pouvoir m'exprimer à travers mon corps et pas de forcément l'exprimer de façon orale ou de verbaliser ces choses-là, mais de vraiment... traverser les émotions par le corps et de les laisser un peu m'envahir, je trouve que ouais, ça m'a quand même beaucoup aidée et je pense que ça m'aide encore beaucoup. Et je reprends ce que tu avais commencé en off, hein. par rapport au tatouage et se réapproprier son corps par multiples transformations qu'on peut se permettre, qui sont accessibles ou pas, mais de se guérir un peu comme ça en se réappropriant notre corps, notre vision du corps qu'on veut en avoir. Et ouais, je pense que ça peut être vraiment très médical, entre guillemets, de ce rapport-là à notre corps et à se réapproprier. Je me répète, mais...
Ouais. Continuer de parler de danse, moi j'adore. Et toi, Andrea?
Pour rebondir sur ce que tu disais, Léna, sur la danse, en t'écoutant parler, j'ai pensé à une personne qui est Pina Bausch. Et je connais pas beaucoup le monde de la danse, mais quand j'ai découvert Pina Bausch, j'ai pété un câble. Que ce soit le Sacre du Pain du Printemps ou son autre pièce qui s'appelle... bref, je sais plus le nom, mais en gros c'est une pièce où tout est répété et amplifié et amplifié et amplifié, et ça pour moi, enfin les chorégraphies de Pina Bausch, moi je les regarde sur YouTube comme je pourrais regarder une série, et c'est guérisseur, je pense, et c'est comme ça qu'elle a écrit ses chorés. Je pense que c'était pour guérir de quelque chose ou pour je sais pas, pour purifier un truc dans l'air. Moi, je pense surtout au théâtre, parce que bah, le théâtre, c'est de l'art-thérapie. Et l'art-thérapie, d'ailleurs, ça existe, hein, c'est une discipline de thérapie, comme il peut y avoir la psychanalyse et tout. Bah, l'art-thérapie, c'est une chose. Faire des mandalas, ça peut faire du bien à l'âme. Faire du théâtre, ça fait du bien. Apprendre des poèmes par cœur, ça peut guérir quelque chose en soi. Et faire du théâtre, y a beaucoup d'enfants qui commencent à faire du théâtre très jeunes parce qu'ils sont timides et qu'ils n'osent pas aller vers les autres enfants, etc. Moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 17 ans. Et je remercie tous mes ancêtres de m'avoir amené jusqu'au théâtre alors que j'avais rien à y faire, parce que vraiment, ça m'a tout construit comme je suis aujourd'hui. Je pense que je ne serais pas la même personne. Et je pense que je ne serais pas à ce micro si je n'avais pas fait du théâtre dans ma vie. Et même si j'en fais plus aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas... vivre de ses rêves tout le temps, en fait ça me porte, et j'ai encore des clés que j'ai eues pendant mes cours de théâtre et mes pièces, un truc de lâcher prise qui est très très important, et aussi d'adaptation, d'improvisation dans la vie de tous les jours. Moi je fais du théâtre tout le temps, mais je pense qu'on fait tous du théâtre tout le temps, et ça c'est guérisseur, je pense, le théâtre comme art.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. C'est la fin de cet épisode. Peut-être un petit peu décousu pour vos oreilles, mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on a passé un très chouette moment toutes les trois à parler du corps. Ah, c'était assez intime en fait, je m'y attendais pas. Merci beaucoup de vous être déplacés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Moi, je pense que je vais m'éclater à le monter, cet épisode. Voilà, merci encore. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode sur un tout autre thème. Merci encore d'être fidèles et à la prochaine.